l'atelier du pouvoir.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux.
La France.
Dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue.
C'est pas la gauche.
Pourquoi pas de la fête ?
La France.
Et de la liberté.
C'est pas la droite. La France.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer.
La politique, dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. La fin ne saurait en aucun cas justifier les moyens.
L'atelier du pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vidère.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vidère, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel Atelier du Pouvoir, l'émission qui chaque samedi de 12h50 à 13h30 sur France Culture vous propose un autre regard sur notre vie politique, son fonctionnement, sa culture, ses institutions, son histoire, mais aussi son avenir. Alors qui dit politique aujourd'hui dit pour beaucoup, hélas, pour beaucoup d'entre nous, défiance, désenchantement, désillusion. Un président à l'impopularité record, un gouvernement qui peine à démontrer sa capacité à réformer, une extrême droite qui n'a jamais été aussi forte, des niveaux d'abstention plus que préoccupants. Bref, le tableau est plus que sombre et pour beaucoup, c'est une question toute simple, mais ô combien grave et essentielle, qui se pose. Faut-il encore croire en la politique ? Question donc que nous posons aujourd'hui, mon cher Vincent.
Décevante, inutile, vile, inefficace, qui n'a entendu ces commentaires désespérés, sarcastiques ou en colère de nos concitoyens pour désigner la politique ? Maire de tous les vices, on lui préfère l'entreprise ou la société civile et ses pratiques exaspèrent autant qu'elles fascinent. Inefficace, elle est jugée incapable d'endiguer le pouvoir du marché et de protéger le citoyen des dérives du système économique dans un contexte où l'État est de plus en plus faible. Sans pouvoir réel, elle prétendrait devenir un pouvoir qu'elle ne peut tenir. En réalité, à l'heure de la mondialisation et de la construction européenne, le vrai pouvoir étant ailleurs. Décevante enfin, elle privilégierait la stratégie sur la conviction, le buzz sur le débat d'idées, les oppositions factices et de mauvaise foi à la confrontation de vraies visions politiques, le compromis mou là où nos citoyens attendent des réformes parfois radicales. Toutes ces remarques sont, si ce n'est totalement justifiées, en tous les cas largement répandues. Elles nourrissent tout à la fois un euroscepticisme de plus en plus banalisé, un populisme autoritaire que l'on voit fleurir partout en Europe, et une distance générale avec la démocratie représentative qui se caractérise par une participation électorale de plus en plus faible et une indifférence croissante à l'égard des politiques. Pourtant, le désir d'engagement demeure fort et le goût de la chose politique toujours très marqué dans notre pays. Rejetant un système politique qu'elle juge à bout de force, de nombreux citoyens rêvent d'un autre monde politique et leur déception ou leur colère ne sont pas forcément synonymes d'apathie démocratique. De ce paradoxe entre un rejet de la politique et le rêve d'une autre manière d'en faire, nous avons tiré plusieurs des questions que nous abordons aujourd'hui. La politique a-t-elle encore un sens ? Est-elle condamnée à décevoir en démocratie ? Quels peuvent être enfin ses horizons dans notre époque troublée ? On en parle aujourd'hui dans cette nouvelle édition de l'Atelier du Pouvoir qui répond à la question « Faut-il encore croire à la politique ?»
Marie-France Garraud est avec nous, ancienne conseillère du président Georges Pompidou, candidate à l'élection présidentielle, c'était en 81, députée européenne, 1999-2004. Elle préside aujourd'hui l'Institut international de géopolitique, celle que l'hebdomadaire Newsweek avait baptisée au milieu des années 70 la femme la plus puissante de France. Quel regard porte-t-elle sur notre vie politique ? Nous lui posons la question dans un instant. Avec nous également Esther Benbassa, sénatrice écologiste du Val-de-Marne, mais également historienne, universitaire, auteure de nombreux ouvrages de référence, notamment sur l'histoire du judaïsme, l'une des rares intellectuelles, il faut le noter, de notre vie parlementaire. Et puis enfin, Philippe Brault est avec nous, professeur de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste des émotions populaires, de la démocratie également, auteur d'un livre dont le titre fait directement écho à notre sujet du jour, Le jardin des délices démocratiques.
Je trouve que, en ces temps troublés, tellement troublants, que les politiques, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, ne se taisent pas enfin pour être dans la même flamme, dans le même univers. Puisque on me parle de république, de républicain et tout. Mon cœur bat quand j'entends ça. Mais pourquoi il n'y a pas de république? Pourquoi il n'y a pas de républicain? Parce qu'on n'est pas républicain quand on se sépare comme ça, quand on balance les anathèmes, et à gauche, et à droite, et machin. Et quand le peuple, qui est dans la merde, qui est en bas et tout, reçoit tout comme ça, en se disant, putain, mais je trouve ça quand même... très indécent, quand même, très indécent de la part de la classe politique. D'ailleurs, je pense que, je vais dire une chose qui va peut-être vous faire bondir, je pense que le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. La preuve, c'est que ces putains de dettes-là, qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux, et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Moi, républicain, payant mes impôts, et ainsi de suite, je voudrais que toutes les dettes de ces pays soient annulées. Et je peux vous dire que là, le problème du chômage, le problème des constructions, le problème de l'avenir pour nos enfants, et ainsi de suite, il aurait une grande chance d'éclater et de revenir vers la vie, tant qu'il y aura ces histoires de dettes qui mettent à plat les peuples. Donc, comme vous, les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer, ces putains de dettes, parce que la banque, elle est plus forte que vous, c'est elle qui vous imprime la destinée de notre peuple, et non pas vous. Voilà.
Richard Boringer, l'acteur très célèbre, très populaire auprès des Français, il était l'invité de l'émission On n'est pas couché sur France 2 le 31 mars 2013. Bonjour Marie-France Garraud.
J'étais accablée par ce vocabulaire. Hein.
Alors, vous étiez accablée, mais quand un acteur célèbre et populaire dit que les politiques ne servent plus à rien, qu'ils sont aujourd'hui des prestataires de services, même si le vocabulaire ne vous sied pas, est-ce que le fond vous convient?
Non, attendez, le vocabulaire me sied dans une phrase de ce genre. Le politique ou la politique, c'est la gestion d'un État, d'une collectivité humaine, en ces termes juridiques. C'est quand même cela, essentiellement. C'est pas la peine de mettre le mot politique à toutes les sauces. Non. C'est un sens et ça repose sur des données de base. Il faut qu'il y ait une collectivité humaine, qu'elle soit sur un territoire, et que ce territoire soit constitué en État. C'est-à-dire que dans ce territoire, on dispose de divers pouvoirs qui sont, tout le monde le sait, battre monnaie, faire les lois, rendre la justice et décider de la paix et de la guerre. En tout cas, c'est le cas pour les États européens. Et cette définition est date... Il y a un débat, mais elle date quand même du siècle. Mais et là, on utilise les mots comme des mots d'un vocabulaire ordinaire. Ils ont un sens précis.
Mais sur l'idée quand même, qui est partagée par beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, et sur le fait que les hommes politiques, en tous les cas ceux qui font de la politique, ceux dont c'est le métier, la fonction, ne serviraient plus à rien, est-ce que vous partagez cet avis ou pas?
Oui, pour l'instant oui, mais il y a une raison précise. On rentre un peu vite dans le vif du débat. Ils sont les acteurs d'une pièce qui n'a pas sa racine. Pour qu'un politique ait un sens, c'est ce qui concerne la gestion d'une collectivité humaine, et celle-ci est à peu près doit être constituée en État. Parce D'accord. que la structure, c'est l'État.
Et donc, en fait, quand il n'y a plus d'État, il n'y a plus de politique. C'est ça que vous voulez dire?
Où la politique prend cette allure-là. Il y a un ersatz de politique, mais elle n'est rattachée à rien.
Esther Benmassa, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous qui êtes sénatrice du Val-de-Marne, quand vous entendez Richard Boringer et puis Marie-France Garraud parler de, pour l'un, un rejet de la politique, les politiques qui servent à rien, et puis Marie-France Garraud dire, bah, quand il n'y a pas d'État, il n'y a pas de politique, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, la sénatrice? Donc, la politique?
Moi, je suis en politique depuis très peu de temps, puisque je viens de la société civile. Je fais de la politique depuis 2011 et je ne dirais pas d'emblée que les politiciens ne servent à rien. Ils pourraient probablement servir autrement la nation.
Mais pourquoi est-ce que les gens pensent qu'ils servent à rien, à votre avis? Quelles sont les raisons qu'ils ont de détester
d'abord,
la politique?
D'abord, les politiciens sont de plus en plus éloignés de leurs électeurs. Il faut faire aussi une distinction entre les élus locaux, les parlementaires, l'exécutif. Ce n'est pas la même chose. Quand je vois en circonscription les maires, les adjoints aux maires, les élus travailler, je me dis qu'ils sont quelque part, à mon modeste avis, les vrais serviteurs de la nation. Et puis il y a les parlementaires et le reste, il faut, je crois, faire des distinctions parce que sinon on ne peut pas englober la politique dans un moule où tout le monde ferait la même chose et tout le monde agirait de la même façon.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec Richard Boringer quand il dit les politiques qui servent à rien. Vous pensez que ça dépend desquelles?
Non, mais c'est une façon de parler, bien sûr. Aujourd'hui, lorsqu'on parle avec le Kidam, il vous dit vous servez à quoi. Quand je me promène au marché, ils me disent vous servez à quoi. Mais parfois, les gens vous disent aussi merci. Vous faites passer nos idées, etc. Donc c'est une relation quand même très complexe entre le politicien tel qu'il est perçu. Et aussi l'idée générale que oui, voilà, en rejetant les politiciens, on fait acte d'opposition. Et l'opposition, les Français l'aiment beaucoup.
Philippe Brault, universitaire, je disais, spécialiste notamment des émotions politiques. Il y a quand même un climat assez particulier. Alors après, Esther Benbassa et Marie-France Garraud ont réagi chacune avec leur vision de la politique. Mais comment est-ce que vous, le professeur de sciences politiques, vous abordez la question?
D'abord, il ne faut pas avoir le nez fixé sur l'actualité récente. Il faut peut-être élargir des situations où il y a un déferlement d'hostilité aux politiques. Ça a existé toujours avec une intensité variable, ça je suis bien d'accord. Mais bon, aujourd'hui, oui, il y a une forte intensité. Mais alors, sous la 4e République, qu'est-ce que c'était, hein? Et dans l'entre-deux-guerres, qu'est-ce que c'était? Je voudrais répondre à Richard Bohringer. Les politiques servent à rien? Quelle absurdité de dire ça. Ils servent énormément. Alors, attention, ils servent d'abord, quoi qu'on dise, ils continuent à décider en dernière instance. Alors, je sais bien que l'une des raisons du malaise actuel, c'est que quand on pense aux politiques, on ne pense que au niveau franco-français, hein. Or, il y a des politiques à Bruxelles. Alors, je sais bien qu'il y a toute une rhétorique qui prétend que à Bruxelles, qu'au niveau européen, la gouvernance européenne, elle est technocratique. C'est une absurdité, largement, très largement. Pourquoi ? Quelles sont les instances européennes qui décident ? La conférence des chefs d'État et de gouvernement européens, ce sont des politiques. Le Conseil des ministres, c'est lui qui légifère ou qui co-légifère. Ce sont des politiques, ce sont les ministres des États. Le Parlement européen, ce sont des politiques. On va dire, oui, mais il y a la Commission européenne. Mais la Commission européenne, elle a un pouvoir de proposition seulement. Hein, et heureusement qu'elle est là d'ailleurs, et d'autre part un pouvoir d'exécution. Et cette Commission européenne, elle est à la tête de 50 000 fonctionnaires. En France, il y a combien de fonctionnaires ? 4 millions. Voilà. Donc, relativisons les choses.
Marie-France Garraud, vous qui avez été eurodéputée, est-ce que vous êtes d'accord avec votre voisin ?
Les femmes sont curieuses et je voulais voir comment ça fonctionnait. Bon, je suis allée, j'ai vu, oui, j'ai vu. C'est pas du tout le dire, mais enfin, il est tout à fait clair que ça n'a pas grand-chose à voir. Mais je voudrais revenir. Il faut que on revienne au fond. Quel est ce qu'on appelle la politique ou le politique? C'est la gestion d'une collectivité humaine.
Oui, ça vous l'avez dit. Oui.
Bon, et cette gestion de collectivité humaine, elle est déterminée. Chez nous, ça a été à la royauté pendant longtemps et c'est maintenant une république. Or, si on regarde la Constitution, à l'article 3, si mes souvenirs sont bons, la souveraineté appartient au peuple. Qu'il l'exerce directement, ou etc. Autrement dit, c'est le peuple qui est souverain, c'est pas le gouvernement, ni les présidents de la République.
Et vous avez l'impression que c'est pour ça qu'il y a une distance avec les politiques, c'est que le peuple se sentirait dépossédé ?
Le peuple, je pense que nous n'avons plus de souveraineté. On dit que, je vous disais, pour la souveraineté, il fallait quatre éléments. Nous ne l'avons plus. Nous ne battons plus monnaie, c'est l'Union européenne. Nous ne faisons pas les lois, c'est l'Union européenne. Nous ne rendons pas la justice, c'est l'Union européenne. Nous ne décidons pas de la paix et de la guerre, c'est l'OTAN. Par conséquent, nous n'avons aucun pouvoir d'État.
Oui, mais ce que dit Philippe Brault et qui est intéressant, c'est que finalement, il y a eu une forme de transfert de souveraineté à une instance dont lui pense qu'elle est éminemment politique.
Laquelle ?
L'instance européenne, le Parlement européen, le Conseil des ministres, les États européens. Est-ce que finalement, la politique, le pouvoir politique ne s'est pas déplacé à un autre niveau, qui est le niveau européen ?
Alors, on va être beaucoup trop rapide, je vais être beaucoup trop rapide. Je pense qu'on est en cours de déplacement. Il me paraît difficile de parler d'un sujet aussi grave que celui-là, qui est au fond celui de l'État, l'existence d'un État français et l'existence de sa souveraineté, sans tout de même penser que ça fait 10 siècles que d'ailleurs nous, ça a été défini et que nous voisinons avec nos voisins qui, depuis 13 siècles, sont les Germains. Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça.
Il y aurait des
Philippe Brault.
Ce plan historique, c'est un petit peu approximatif parce que il y a eu une naissance des nations qui est un processus très très progressif et dire que, bien sûr, on peut dire sous Louis XIV ou sous Frédéric II de Hohenzollern, c'était un État. Mais en fait, c'est une erreur sémantique. Ce que l'on met derrière le mot État à cette époque-là, il y a 10 siècles ou il y a 5 siècles, c'est complètement différent de ce qu'il y a aujourd'hui.
Esther Benbassa, juste un mot par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. La politique, nous dit Philippe Brault, elle est efficace. Elle a une efficacité. Il y a des gens qui font quelque chose. Est-ce que vous qui êtes une politique, puisque vous êtes sénatrice, est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, qu'au Sénat, le rôle que vous avez est un rôle qui a une utilité sociale dont on peut rendre compte aux citoyens ?
Oui, ça dépend comment vous l'exercez. Si vous êtes tout le temps dans la compromission et dans les manœuvres et dans les coulisses à œuvrer pour que tel texte puisse passer parce que politiquement, on va déranger.
Ça, c'est la majorité ou c'est une minorité? Vous direz que la majorité de vos collègues travaillent?
Qu'on soit majoritaire ou minoritaire, là, récemment, on a vu que l'exécutif faisait une partie de ses amendements avec la droite. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails. Moi, je ne mets pas en cause l'efficacité, mais je dis qu'il y a des manières d'exercer la politique et nos institutions représentatives ne représentent pas aujourd'hui vraiment le peuple. Par exemple, la seconde chambre, le Sénat, pourrait être plus représentative des corps de métier, des différents, d'avoir des entrepreneurs, des intellectuels, des ouvriers, etc. Alors là, peut-être la politique serait plus proche de ce qu'attendent nos concitoyens, parce qu'on est quand même dans un éloignement assez important, surtout au niveau de la perception de ce qu'ils demandent, parce qu'ils sont beaucoup plus informés que dans le passé. Ils savent des choses, ils veulent participer. Et cette participation n'aboutit pas.
Mais sur la question concrètement du pouvoir, parce qu'on ne va pas rentrer dans un grand débat sur quelles institutions sont représentatives et quelles ne le sont pas. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'au Sénat, par exemple, on a un impact, on a une forme de pouvoir ou pas? Est-ce que quand on dit la politique n'a pas d'efficacité, est-ce que vous diriez pour le Sénat, c'est pas vrai ou est-ce que c'est vrai?
Oui, mais moi, je ne vois pas les choses sous l'angle du pouvoir. Mais oui, écoutez, il y a des choses qu'on a... Oui, mais bien sûr. Moi, je suis une femme de conviction. Je suis venue au Sénat pour faire passer mes convictions parce que j'avais une autre vie très agréable avant de faire la politique. La politique s'est professionnalisée. C'est un autre problème dont il faut parler. Mais on peut, aujourd'hui, avec conviction, faire passer des petites choses... Faire bouger les choses, quelque peu, plus que, par exemple, moi je prends cet exemple, qu'un intellectuel qui écrit des rubriques, des éditos, etc. On fait des choses, on arrive à faire. Mais ce qui manque, c'est aussi la conviction. Alors, voilà, c'est pas moi, pour moi, le pouvoir n'est pas essentiel pour faire passer des choses. À ce moment-là, on...
Pour comprendre le pouvoir des politiques, il faut peut-être... revenir à une comparaison. Si je joue au bridge, il y a deux partenaires d'un côté et deux partenaires de l'autre. On voit tout de suite à qui attribuer les gains et les pertes. Nous sommes dans une... Alors, dans l'état de Louis XIV, aussi on voyait, parce qu'il y avait très peu d'acteurs. Mais aujourd'hui, nous sommes non seulement au niveau étatique, avec une différenciation extrêmement importante des institutions, hein, avec des négociations, des dialogues, vous le savez mieux que moi, les politiques doivent négocier avec les experts, ils doivent négocier avec les forces sociales, etc., etc.
Les lobbies. Bon,
donc personne, en fait, ne peut dire... C'est l'histoire de la main invisible. Personne ne peut dire « je décide ». En fait, c'est un système de négociation. Or, nous sommes aujourd'hui à l'ère de la globalisation. La France ne marche pas toute seule. Il y a longtemps qu'elle est intégrée, interpénétrée, interdépendante avec autre chose. Donc, vous avez un système politique extrêmement efficace... Je précise, contre Richard Bohringer d'ailleurs, hein, système extrêmement efficace et qui est un système extrêmement complexe que la plupart des gens, je m'excuse, sauf les profanes de la politique, ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est un système d'interdépendance à divers niveaux.
Alors justement,
la gouvernance multiniveau.
On va revenir un petit peu sur cette question de la démocratie et éventuellement de sa déception. Mais d'abord, on voudrait vous faire écouter une figure du monde intellectuel, Jacques Julliard. C'était dans Figure de proue sur France Inter, le 26 octobre 1997.
la démocratie repose sur le désenchantement. La politique comme royaume enchanté, comme royaume imaginaire, c'est celui des régimes précédents. La monarchie enchantait plus que la démocratie. Je dirais même que les tyrans sont plus fascinants pour leur peuple que le président Loubet, le président Falière, pour ne pas prendre d'exemple trop contemporain. Voyez-vous, à Louis XIV, on ne demandait pas des comptes sur l'argent qu'il dépensait à Versailles. Aujourd'hui, si un président de la République faisait Versailles, bon, certains s'y sont essayés, mais on lui demanderait des comptes, etc., etc. Donc, si vous voulez, il faut bien voir que ce désenchantement, il est réel. Mais en même temps, je le crois inscrit dans la, je dirais, la condition démocratique de l'homme moderne.
Jacques Julliard, historien, qui donc disait « Le désenchantement est inscrit dans la condition démocratique de l'homme moderne ». Marie-France Garraud.
C'est absurde. Enfin, si je puis dire, absurde. Il faut rendre leur sens aux mots. Bon, tout de même, de temps en temps, on est obligé de bondir. L'État, la France est un État depuis Philippe le Bel. Bon, c'est un État depuis... Si, je suis désolé. Enfin, là, vraiment, non.
En gros.
Bon, et en gros, et même en détail.
En très gros.
Depuis cette époque, nous disposons des quatre pouvoirs que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les conditions de la souveraineté, et que nous n'avons plus. Ni les uns, ni les
sur
autres.
Sur le désenchantement.
Mais le désenchantement vient de ce qu'on appelle l'État n'est plus l'État.
Mais vous pensez que c'est vraiment la seule chose ?
Oui, parce que dans ces cas-là, tout s'effiloche. Tout s'effiloche. La structure s'effiloche. Et donc les appendices de la structure s'effilochent.
Mais vous pensez...
C'est ça que nous ne voulons pas voir. Et si vous voulez, pour revenir à un sujet plus présent, on ferait bien de regarder quand même. Parce que nous vivons à côté de la Germanie depuis 12 siècles. Hein. Bon, ces 12 siècles ont été quand même assez peuplés d'événements. Au départ, pourquoi avons-nous tenu la petite France, toute petite, face de l'Empire germanique?
Nous refaites pas toute l'histoire des relations franco-allemandes.
Mais non, mais pourquoi est-ce que la France a tenu? Parce qu'ils avaient eu le bon goût de choisir la monarchie qui est héréditaire. Donc, quand il y avait un roi qui mourait, le fils lui succédait. Dans l'Empire, il fallait élire l'empereur. Ça pouvait prendre 3 ans. Ça ressemblait à l'élection actuellement d'un député au scrutin d'arrondissement. Il fallait que les 400 et quelques États payent. Bon, c'est-à-dire qu'il y avait un effilochage des deux. Actuellement, maintenant, les choses se sont modifiées profondément et la structure politique de l'Allemagne est au moins aussi solide que celle de la France et même actuellement, elle est probablement plus solide. Et moi, je pense que le problème qui se pose à nous en ce moment, c'est précisément celui-là. Nous sommes en confrontation politique essentielle avec la puissance dominante de l'Europe qui est l'Allemagne. Enfin, ça saute aux yeux.
Je voudrais apporter mon jugement sur ce que vient de dire Jacques Julliard. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, il y a du désenchantement. Mais à mon avis, il oublie quand même la moitié de la réalité. En réalité, la démocratie, elle est dominée par le tempo, illusion, déception. En effet, quand on part en campagne, les vrais hommes et femmes politiques, eh bien, ils savent motiver les gens, offrir des espoirs, une vision, etc. De Gaulle offrait une vision, il enchantait la politique.
On l'a quand même viré deux fois.
Oui, non, attention, mais justement, je dis que ce qui est important, c'est le tempo, illusion, déception. On gagne les élections en créant, à bien des égards, plus que des espérances, des illusions. Et c'est ce qui explique qu'ensuite, il y a les déceptions. Regardez, François Hollande, il a été élu sur certains thèmes dont il savait pertinemment, parce qu'il est intelligent, qu'il ne pourrait pas les tenir, mais sans ça, il n'aurait pas été élu. Voilà.
Esther Benbassa, est-ce que vous pensez justement que dans ce cycle illusion-déception dont parle Philippe Brault, dans l'illusion qui mène à la déception, liée aussi au fait que la politique en démocratie, c'est toujours un compromis. Une décision, elle est l'objet d'un compromis. Des fois, les gens fantasmeraient sur l'idée qu'on pourrait même sortir de la démocratie si on avait des vraies réformes. Hein, cette idée qu'on n'a pas besoin de faire de compromis, il faudrait faire la vraie réforme.
Oui, mais je ne sais pas si c'est le compromis vraiment qui désenchante les gens. Il y a, comme monsieur l'a dit, il y a des périodes qui sont propices au désenchantement, les périodes de crise, également. Et puis le populisme, les périodes de populisme favorisent ce désenchantement parce qu'ils jouent sur ce désenchantement, tous pourris, etc. D'ailleurs, ça touche aussi ceux qui pensent, ils seraient tous pourris, les politiques aussi, etc. Mais à côté de ça, il faut peut-être, je parle de ma petite expérience, mais il faut se dire aussi que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend de nous et que certaines de nos actions, certains des procès, blanchiments, détournements, etc., tout ça fait fantasmer les gens et ils mettent tout le monde dans le même sac en disant ils nous volent, tous pourris, et en plus, voilà, ils ne trouvent pas des solutions, ni contre le chômage, ni etc., etc. Il y a un peu, c'est un ensemble, on ne peut pas tout rejeter comme ça en disant voilà, ils ont tort. Non, les électeurs n'ont pas tort. Et les politiciens ont-ils tout à fait tort? Ils ont tort également, mais pas toujours.
Marie-France Garraud, je voulais faire appel à votre expérience. Je disais que vous avez été conseillère du président Pompidou. Vous avez connu une génération d'hommes politiques des années.
On a été gouverné, figurez-vous.
Est-ce que vous insistez beaucoup sur les structures, mais est-ce qu'il y a aussi
les structures qui sont déterminantes.
Oui, mais est-ce qu'il y a un problème, Marie-France Garraud, aussi de recrutement de la classe politique?
C'est un problème de structure, peut-être de recrutement, mais de structure.
Est-ce que les hommes ont changé?
Mais en tout cas, on n'est pas en démocratie. Nous n'avons pas les pouvoirs démocratiques d'un État.
D'accord.
Point.
Mais je vous parle, du personnel politique.
De côté, quand même.
Vous avez conseillé un président, mais c'était Georges Pompidou. Vous avez été proche de Jacques Chirac.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le personnel politique est à la hauteur?
Vous prenez les causes ne sont pas là, encore une fois. À partir du moment où nous ne sommes pas un État.
Non, mais ça n'est pas forcément que ça.
Mais je suis désolée, mais si c'est ça. C'est absolument
ça. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème aussi d'élite, de recrutement des élites?
Oui, ça c'est sûr. Bon, mais en fait, les gens ne sont pas plus bêtes maintenant qu'il y a 100 ans. Non, il ne faut pas exagérer. Bon, ils ont peut-être de moins bons professeurs, mais ils en ont quand même de très bons.
J'ai quand même envie de dire quelque chose à propos de l'État.
Dites.
C'est que l'État dont vous parlez aujourd'hui, il est en pleine mutation du fait de l'interdépendance avec nos voisins.
Mais attendez, je parle de l'État en tant que structure.
Oui, et bien moi aussi. Et bien l'État en tant que structure, contrairement à ce que... Si, alors vu de loin, n'est-ce pas, sur 13 siècles, oui, il y a l'État en tant que structure. Mais ce n'est pas vrai. Quand vous regardez le 12e siècle, quand vous regardez le 13e siècle, quand vous regardez le 16e siècle en historien qui connaît son métier, etc., quand vous regardez la 3e République en début de 3e République et la 3e République en fin, vous voyez que l'État change, est différent. La structure étatique change. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la globalisation au 21e siècle. C'est vrai que le pouvoir a largement glissé du niveau strictement national, stato-national, au niveau européen et même au niveau mondial. Et alors, c'est irréversible. Irréversible.
Non, rien n'est jamais irréversible.
Marie-France Garraud, moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur un mot qu'a dit Esther
Balbassa. Je voudrais quand même dire un mot. Parce que c'est pas parce qu'on passe de l'État à la structure fédérale qu'on change la notion d'État. Quand même pas exagéré.
Mais on ne fait pas une émission complètement dédiée à l'État. Ce qu'on aimerait discuter avec vous aussi,
c'est ça, hein.
La question aussi de ces mouvements politiques qui sont en train de croître partout en Europe, dont on a parlé dans cette introduction. Esther Benbassa nous l'a rappelé. On a dit la distance avec le politique, elle nourrit le populisme. Mais est-ce que vous avez le sentiment, Marie-France Garraud, que le populisme, c'est une nouvelle façon de faire de la politique ou est-ce que c'est la négation de la politique?
Moi, je ne comprends pas bien ce que c'est que le populisme. Alors, je ne comprends pas bien ce que c'est que le populisme. On baptise populisme une action. Un malaise du peuple dont on ne veut pas déterminer la cause.
Oui, mais il y a des mouvements quand même. Il y a des mouvements qui sont des mouvements populistes.
Ce sont des mouvements, mais on ne peut pas bien en déterminer la cause. Et je vais revenir, je vais vous choquer de nouveau. La cause vient de l'absence de structure. Quand il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'ordre. Alors, le politique, comme le reste, c'est un ordre qui est celui des citoyens. Dans la démocratie, ce sont les citoyens qui décident de la structure.
Esther Benbassa.
Là, on va dans tous les sens.
Sur la question du populisme.
Voilà. Le populisme, il y a un populisme, oui. On a eu un populisme dans les années 30. Aujourd'hui, on a un populisme qui est un peu différent.
Donc, j'en viens à ma question.
Avec des idées où on focalise sur des thèmes, il n'y a pas de programme politique, etc. Le FN, par
exemple. Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire de la politique, le FN ou le FPO? Ou est-ce que c'est la négation même de la politique?
Pour l'historienne que je suis, ce n'est pas nouveau. Le populisme, il y a eu le poujadisme. Enfin, c'est absolument pas nouveau. Mais pendant ces périodes, il y a vraiment un rejet du politicien, comme il y a un rejet du journaliste, un rejet des médias, des élites. Mais je dirais que, moi, je ne parlerai pas de l'État parce que c'est pas peut-être le thème de l'émission. Mais je dirais que quand vous dites qu'il y a un problème de recrutement, peut-être vous posez la question. Je dirais que il y a une extrême professionnalisation de la politique.
Et ça, c'est un problème.
C'est un problème. Oui, parce que on est aujourd'hui le mois de mai 2016. Déjà, tout le monde est en rang serré pour les élections qui se préparent. On a été avant. On s'est préparé au régional, etc. Chacun tient à son poste. Il veut qu'on le renouvelle parce que c'est son gagne-pain. Il obéit au dictat de son parti dans ces périodes-là, on le voit. Tout cela fait qu'on perd son indépendance et on suit parfois des idées qui ne sont même pas leurs propres idées. Quand j'ai vu là ces derniers temps les votes sur l'état d'urgence, etc. Enfin, oui, 3 mois ça allait et après ça a été un suivisme. Tout cela, je crois, fait que la professionnalisation n'est pas à être perçue différemment par la population, parce que parfois, et souvent d'ailleurs, nos actions sont déterminées par ces dictats des partis.
Philippe Beau. Moi, je voudrais dire que la professionnalisation politique, et à mon avis, vous les écologistes, vous en êtes la démonstration, c'est moins un problème qu'une solution. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si à partir de la fin du 19e siècle, la classe politique s'est professionnalisée, parce que les problèmes sont de plus en plus complexes, plus compliqués, demandent une certaine expertise, qui n'est pas forcément une expertise sur le fond, mais souvent sur la communication. Mmh. Car on oublie que le rôle des politiques, c'est pas uniquement de décider, les opposants seraient pas des politiques, mais c'est le communiquer, d'accord? Et donc, je pense que la professionnalisation politique, celle qui permet de vivre de la politique et de vivre intégralement dans la politique
et de cumuler.
Oui, le cumul, effectivement, c'est une dérive, mais encore une fois, ça ne remet pas en cause le problème de la professionnalisation. Je dirais même au contraire, ça la favorise, parce que les cumulards, en fait, ils n'étaient pas des professionnels à la fois au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national.
Ils exercent quand même.
Non, d'accord, mais encore une fois, on parle de la professionnalisation politique.
D'accord.
C'est une solution. Or, je sais que les écologistes, j'ai suivi beaucoup le mouvement écologiste. Non, mais je vous suis avec beaucoup de sympathie, hein, vraiment. Hein. Mais disons que dans les années 80-90, quand vous avez commencé à décoller, hein, moi j'en ai connu de très près, quoi. Hein, eh bien, ils étaient persuadés que la politique pouvait être un passage, simplement.
Non, un pas passage. Un passage.
Eh bien, ils se sont rendus compte que, oui, voilà, un passage de vie, voilà.
Si, oui.
Eh bien,
à durée déterminée.
Oui, c'est ça. Eh bien, c'est une situation qui n'a pas été tenable ni tenue par vous. Voilà.
Alors la question.
Vous savez, je suis depuis 2011.
Oui,
je défends ce parti. Je ne connais pas sa longue histoire, mais je dirais que la professionnalisation nuit en partie au bon fonctionnement des convictions. C'est ce qui fait qu'on n'a plus de convictions.
Alors,
on a de moins en moins de convictions.
Dans les dernières minutes de l'émission, je voulais vous faire écouter une voix d'une femme qui s'est engagée en politique, un peu comme vous, Esther Benbassa, il n'y a pas si longtemps. Elle est aujourd'hui adjointe au maire de Bordeaux et elle explique les raisons pour lesquelles il faudrait encore croire en la politique aujourd'hui. Et j'aimerais que vous réagissiez à ce qu'elle dit. Il s'agit de Virginie Calmels, qui était l'invitée le 7 janvier 2015 du 7-9 de France Inter.
Je crois qu'on ne peut pas s'investir en politique et faire le choix que j'ai fait, qui est un choix hyper structurant. C'est un changement de vie radical à un âge, vous savez, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants. Il n'était pas prévu qu'à ce moment précis de ma vie, je change radicalement de vie. Si je le fais, c'est bien sûr que c'est parce que j'aime les gens. Donc ça peut surprendre, parce que les gens se disent « Ah oui, mais quand on a dirigé des groupes ou quand on est chef d'entreprise, oui, ben on est dans une forme de zone de confort. » Le fait de rompre cette zone de confort, ça ne peut être qu'une motivation qui fasse qu'on se dise qu'on va peut-être apporter sa pierre à l'édifice et faire des choses pour les gens. Alors moi, c'est sûr que je l'ai pas dit. J'ai fait 10 ans de caritatif sans jamais le dire, parce que je trouve que on n'est pas là pour essayer de se dire ah ben on se donne bonne conscience, on fait des choses pour les autres. Mais c'est des caractères. Vous savez, vous faites pas le choix de la politique, et c'est pour ça d'ailleurs je trouve que les politiques sont beaucoup trop décriées dans ce pays, parce que quand vous voyez ce que c'est sur le terrain, l'abnégation quelque part et l'investissement en énergie. C'est quand même colossal, donc ça ne peut pas être que pour des mauvaises raisons. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'hommes et de femmes sur ce territoire qui portent des valeurs politiques qui doivent être remises au bon niveau, c'est-à-dire au niveau de l'intérêt général plus que de l'intérêt particulier.
Virginie Calmels, donc au micro de France Inter le 7 janvier 2015. Marie-France Garraud, un jeune ou une jeune femme aujourd'hui, un jeune homme ou une jeune femme, vous dirait aujourd'hui, bah, je vois votre carrière, Marie-France Garraud, vous avez été conseillère du président
Pompidou. Moi, j'ai jamais eu de carrière.
Vous avez occupé des responsabilités. Est-ce que vous me conseilleriez, moi, jeune citoyen, de faire de la politique, de m'engager dans un parti ou pas? Est-ce que vous donneriez ce conseil à quelqu'un
bien.
20 ans?
Je m'en garderais bien. On est capable à 20 ans de décider ce qu'on veut faire, enfin quand même. Bon, ou alors, il faut retourner au jardin d'enfants. Bon, mais si vous voulez, moi, ce qui me frappe en ce moment, c'est que ce que j'entends dans la rue ou ailleurs, c'est pas ça. Ce que j'entends, c'est, dans l'Europe, qu'est-ce qu'on va devenir? On a quand même un voisin qui pèse lourd.
Oui, mais il faut que,
figurez-vous que ça préoccupe les gens.
Ben oui, mais pour que les gens changent cette situation, est-ce que vous diriez, engagez-vous dans des partis, est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire? L'État, vous le décrivez, mais est-ce qu'il faut s'engager en politique?
Bien sûr, à condition qu'on sache pourquoi on s'engage.
Et les partis servent encore à quelque chose?
Ce que je constate simplement, c'est que nous faisons comme si il n'y avait pas une menace sur la souveraineté et l'existence même de la France. Donc, c'est quand même le sujet majeur. Alors les partis, le reste, peuvent agir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Esther Benbassa, même question que posait Thomas Vidor à Marie-France Garraud. Si vous aviez des jeunes gens qui venaient vous voir pour dire « je pense à m'engager », ce que vous leur diriez? Allez-y, ou au contraire, ça ne sert à rien?
Écoutez, je n'ai pas de croyance particulière. Je ne crois pas dans la politique comme une religion, mais je crois dans la politique comme une action qui se renouvelle sans arrêt. Et je dirais aux jeunes, et je le dis sans arrêt, je dirais oui, il faut s'engager pour changer la politique et pour aider au changement de la société.
Donc c'est encore possible. C'est encore possible.
Oui, il faut. Il ne faut pas confondre toujours la politique et les partis. Il faut se dire que la politique est un champ où on peut aider à changer quelque peu les choses. Et si on ne s'engage pas, on laisse aux autres cette responsabilité. Et je ne sais pas si les autres peuvent autant remplir ce désir de changer les choses, parce que si chaque jeune qui a des convictions entrait en politique, la politique ressemblerait peut-être à autre chose.
Marie-France Garraud, un mot.
Je voulais dire un mot parce que je suis à la Sciences Po il n'y a pas très longtemps avec un amphi de jeunes. Et j'ai été stupéfaite d'ailleurs. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour nous sortir de là? On est menacé de disparition, on est menacé de mort, l'État français. Qu'est-ce qu'on fait pour nous sortir de là? Ils sont prêts à s'engager, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pas facile de répondre, hein. J'ai dit, faut guetter le moment où il y a la faille. La faille dans l'organisation, pour passer, pour sortir.
Philippe Bourreau, sur cette question des horizons politiques d'aujourd'hui, des ventes et de l'engagement, est-ce que vous diriez?
D'abord, je n'ai plus l'âge de donner des conseils aux jeunes. Ils se débrouillent par eux-mêmes, comme
des conseils, mais des questions peuvent se poser.
Ah, oui.
Alors,
vous pouvez les aider.
Je peux les aider en leur faisant voir éventuellement des choses. C'est tout. Et puis, Lucille, ce qui me paraît clair, c'est qu'en politique, on a besoin d'idéalistes qui ont des visions, qui ont des convictions très fermes, des convictions morales, et on a besoin de pragmatiques. Car les idéalistes ont leurs vertus et ils ont aussi leurs défauts.
Bien sûr.
Et les pragmatiques, à l'inverse, ont leurs qualités et ils ont aussi leurs défauts. On a besoin de visionnaires, on a besoin de gestionnaires. Quelqu'un qui rentre en politique à 20 ans, probablement, il va être du côté soit de l'idéalisme, soit, c'est vraiment inquiétant, le magouilleur qui a déjà ça dans les tripes. Ça, effectivement, c'est inquiétant. Quand on entre en politique à 40 ans, on entre avec d'autres perspectives. Et souvent, on a un bagage derrière soi, une expérience humaine, une expérience professionnelle, et c'est très bien. Il y en a même qui rentrent en politique à 60 ans. Et alors, pourquoi pas? Eh bien, je vous en félicite. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il est extrêmement important que la classe politique soit pluraliste. On a besoin de tout ce monde-là, quoi. Et que, bien entendu, un milieu humain qui est si proche du pouvoir ne peut pas ne pas fonctionner parfois avec des dérives individuelles et personnelles.
Et c'est pas si grave, c'est ça que vous voulez dire.
Et c'est pas grave, c'est inévitable. Mais de grâce, pas d'amalgame. Quoi.
Donc vous voulez dire d'un mot, et pour finir avec nos invités, faut-il croire à la politique ? Oui ou non ?
Oui, plutôt oui.
Il faut croire aux politiques.
On ne peut pas ne pas croire à la nécessité de la politique. Et là, je m'inscris en faux radicalement contre Richard Boringer, que j'apprécie par ailleurs comme acteur. Voilà.
Bah, s'il y avait un autre moyen que la politique pour gérer la société, essayer de la changer, je dirais qu'il ne faut pas croire dans la politique. Mais pour le moment, il n'y en a pas.
Bon, en tous les cas, réponse plutôt positive, mais avec beaucoup de critiques, ce qui donne encore, j'espère, longue vie à cette émission. C'était l'Atelier du Pouvoir. Merci à Marie-France Garraud, merci Philippe Brault et merci Esther Benbassa d'être venue nous éclairer avec vos divergences également. Pour donc cette émission préparée par Cyril Baer, réalisée par Doria Zénine et à la technique aujourd'hui Nicolas Delmas, vous pouvez nous réécouter en podcast sur la page de l'Atelier du Pouvoir, franceculture.fr, ainsi que sur Facebook, Twitter, @atelierpouvoir. On se retrouve la semaine prochaine, mon cher Vincent, et on parle d'un tout autre sujet.
Oui, de quoi ? On aura une grande émission. Peut-on gouverner l'Italie avec Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien ?
À la semaine prochaine pour un nouvel Atelier du Pouvoir. Dans un instant, c'est la suite dans les idées, l'émission de Sylvain Bourmeau. Bon week-end à tous sur France Culture. Bye.